Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
J'espère que ça va servir à quelqu'un et que ça aura fonctionné pour la personne qui aura reçu ces ovocytes.
Il faut savoir que les couples sont très peu accompagnés psychologiquement pour penser ces questions. Vraiment, ils sont souvent assez seuls et isolés dans leurs questionnements.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Laure.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Laure ?
Eh bien, je viens parler avec vous de mon parcours de donneuse d'ovocytes, qui date de 2018, le début en 2018.
Donc en 2018, vous avez donné vos ovocytes.
Voilà. Donc je ne savais pas du tout que ça se donnait, les ovocytes en fait. Je n'étais pas du tout au courant. J'ai lu un article dans un journal qui en parlait et a priori, je me sentais en très bonne santé. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas se renseigner un petit peu sur ce don. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous dans un Sécos pas très loin de chez moi. Et donc j'ai entamé les démarches. J'ai commencé la démarche de don en 2017 et ça a abouti en 2018 parce qu'il y a eu des recherches génétiques de mon côté, du côté de ma maman. Et le premier don s'est effectué du coup en novembre 2018.
Qu'est-ce qui fait que cet article vous a touché et vous a dit voilà, je vais faire cette démarche ?
Alors je me souviens plus dans quel journal c'était, mais c'était quelque chose d'assez fort et on ressentait la détresse des gens. En fait, on ressentait que c'était ne pas avoir d'enfant, c'était quelque chose de vraiment très dur. Moi, c'est quelque chose qui ne me touchait pas parce que j'étais célibataire, je n'avais pas d'envie d'enfant à ce moment-là. Et du coup, c'est quelque chose que je ne vivais pas moi, mais je me disais, tiens, c'est quand même fou parce que c'est quelque chose qui peut se donner, qui, a priori, n'est pas si compliqué que ça à donner. Après, bon, c'est vrai que la suite du parcours est quand même un petit peu plus longue que ça, mais voilà, ça a l'air assez facile de donner quelque chose qui peut servir à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, je me suis dit, si je suis en bonne santé, si j'ai pas besoin de tous ces ovocytes. J'avais bien compris qu'on a effectivement tous les ovocytes dès la naissance. Et ensuite, voilà, qu'on en donne quelques-uns, c'est pas ça qui va altérer la fertilité. Donc du coup, je me suis dit, bah, si je peux faire quelque chose de ces ovocytes, et ben, autant le faire.
Et donc, vous dites, voilà, ça a été un peu long et peut-être un peu plus compliqué que ce que vous imaginiez au départ. Comment concrètement ça s'est passé, votre don ?
Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec une médecin de l'hôpital où se trouvait le Sécos en question. Comme il y avait eu un cancer dans ma famille, du côté de ma maman, il a fallu faire les recherches génétiques pour savoir si j'étais porteuse du gène, auquel cas j'aurais pas pu donner ces ovocytes. C'est sur ma mère que s'est passée la recherche. Et ça a pris, je pense, quasiment un an, parce que c'est des recherches qui sont très longues, de chercher c'est une mutation de gène, en fait, d'après ce que j'avais compris. Et donc, ça a été très long. Et puis, c'est vrai que ça remue beaucoup de choses, parce que moi, j'ai une petite sœur aussi, du coup, qui était potentiellement impactée par ça, parce que si ma mère avait eu le gène, j'aurais pu l'avoir, et ma sœur aussi. Donc, c'est vrai que ça impacte aussi le reste de la famille. Et c'est vrai que ma famille se demandait un petit peu pourquoi j'allais donner mes ovocytes. Enfin, ne voyait pas trop pourquoi je m'étais lancée là-dedans. Donc c'est vrai que ça peut être un peu chamboulant. Bon, il se trouve que ma mère n'était pas porteuse de la mutation du gène, donc j'ai pu entamer les démarches. Donc voilà, à peu près, on va dire, je pense 10 mois, quelque chose comme ça, 10 mois plus tard. Et ensuite, donc j'ai eu un autre rendez-vous au Sécos avec la médecin qui m'avait reçue la première fois. Et ensuite, donc, il y a eu rencontre avec les psychologues que j'ai vus deux fois. Pas mal de prises de sang, d'examens médicaux pour vérifier la bonne santé, j'imagine.
Les rendez-vous avec les psychologues, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a pu être abordé, de comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, je me souviens que j'étais très stressée parce que je n'avais jamais vu une psychologue de ma vie. Et la première fois, il y avait deux personnes dans le cabinet. Alors, c'était très impressionnant. J'avais un peu peur, en fait, que ce soit un peu jugeant par rapport au fait, je sais pas, que je n'avais pas d'enfant, pourquoi est-ce que je venais donner, est-ce que j'étais vraiment prête. Et en fait, ça s'est très bien passé. C'était vraiment une discussion plus pour répondre à mes questions, en fait, si j'en avais. Et il n'était pas question de voir, j'ai tel âge, j'ai pas d'enfant, et ah tiens, c'est bizarre. Enfin, voilà, il n'y avait pas du tout de jugement, mais c'est vrai que c'était quand même assez... assez impressionnant pour moi. Et la deuxième rencontre, il y avait une seule psychologue. Donc finalement, ça s'est passé beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. Mais voilà, c'est une partie que j'appréhendais beaucoup. Alors que le fait de donner après, enfin d'être opérée, bon, c'est vraiment pas quelque chose qui me faisait peur.
Et une fois que vous avez fait tous ces rendez-vous,
un autre rendez-vous pour signer le consentement définitif, il y avait cette possibilité-là encore, puisque c'était avant la modification de la loi de bioéthique. Donc il y avait la possibilité de garder des ovocytes, d'auto-conserver des ovocytes pour soi, ce que je n'ai pas choisi. Donc j'ai signé le consentement et ensuite, j'ai commencé le traitement hormonal. Donc, ça consiste en des injections, en fait, qu'on se fait donc soit soi-même, soit fait par une infirmière à heure fixe. Donc voilà, il faut juste être un petit peu carré parce qu'il y a des heures, donc c'est entre 17h et 20h, je crois. Donc, il faut être un peu carré, savoir que voilà, soit on est chez soi, soit il faut libérer un créneau pour l'infirmière, soit au travail et puis on se débrouille un peu comme on peut, qui ont duré. Petite dizaine de jours, quelque chose comme ça, avec des contrôles entre deux, par des échographies, parce que l'idée, c'est de faire grossir les follicules. Donc, du coup, on contrôle un petit peu comment se passe la stimulation, si elle est efficace ou non. Des prises de sang aussi. Donc, pour ça, j'allais à l'hôpital assez régulièrement, on va dire. Bon, par rapport à mon travail, ça s'est très bien passé, puisque je peux m'organiser un petit peu comme je peux, donc il n'y a vraiment pas eu de soucis. Avec l'équipe du SECO, il n'y a eu aucun problème. Et ensuite, quand les médecins ont décidé que la croissance était optimum et qu'il y avait le bon nombre d'ovocytes, on a choisi une date de ponction. Donc la ponction, c'est le moment où on prélève les ovocytes sous anesthésie, locale ou générale, c'est au choix de la patiente. Ils prélèvent les ovocytes et ils ne disent pas, par contre, combien d'ovocytes, quand on se réveille, ils ne disent pas combien d'ovocytes ont été recueillis. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange parce que bon, je me suis réveillée, on m'a dit tout s'est bien passé. Et voilà, et puis je suis rentrée chez moi en fait.
Donc, c'était difficile pour vous de ne pas savoir ?
C'était pas difficile, mais c'était un peu bizarre.
Vous donniez régulièrement votre sang ?
Oui.
Donc vous étiez sensibilisée à cette question du don ?
J'estime que c'est quelque chose que je pouvais faire, qui prend pas énormément de temps et qui est très utile en fait. Donc oui, c'est quelque chose qui me parlait en tout cas.
Ce parcours, est-ce que vous l'avez fait une fois ou plusieurs fois ?
On peut donner trois fois maximum. Donc la première fois, c'était au mois de novembre. Et comme ça s'était très bien passé et que je me sentais toujours aussi en forme, j'ai proposé de donner une deuxième fois. Donc la deuxième fois, c'était au mois de février 2019, quelques mois après. Ça a été beaucoup plus rapide parce que du coup, il n'y avait pas de visite avec le généticien, pas de psychologue, je ne crois pas que j'en ai revu entre deux. Donc c'est juste, on a refait un protocole en fait, on a relancé un protocole de stimulation. Le don s'est déroulé juste après en fait.
Une fois ces dons effectués, comment les choses ont évolué pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez repensé ? Ou c'est quelque chose que vous avez fait, puis entre guillemets, vous êtes passé à autre chose ? Comment ça s'est construit par la suite pour vous ?
J'y pensais, mais je n'y pensais pas plus que ça. J'y pensais plutôt avec espoir, en me disant « j'espère que ça va servir à quelqu'un et que ça va être utile et que ça aura fonctionné pour la personne ou les personnes qui auront reçu ces ovocytes ». Mais ce n'était pas quelque chose qui était omniprésent, j'y pensais pas tout le temps, j'avais peut-être un peu de curiosité de me dire qu'est-ce qui va se passer, mais c'était très bien de pas savoir. Enfin voilà, pour moi c'était très bien, c'était quelque chose que j'avais donné. On passe à autre chose. Et il se trouve que ensuite donc j'ai rencontré quelqu'un et on a eu un projet d'enfant. Et ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, parce que, alors moi, ayant donné ces ovocytes, je pensais que ça allait être très facile en fait. Je pensais qu'il n'y aurait pas de soucis, que
la conception d'un bébé serait très facile. Et puis finalement, bon, c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai consulté un gynécologue en cabinet qui a détecté un syndrome des ovaires polykystiques, donc un SOPK, voilà, qui induisait des problèmes d'ovulation, des difficultés d'ovulation. Donc il y avait une aide médicale à demander parce que ça n'irait pas de soi en fait. Moi je pensais que ça serait facile, ça s'avérait un peu plus compliqué que prévu. Avec ce médecin, on a commencé une phase de stimulation qui n'a pas fonctionné. Et c'est ensuite qu'il nous a orientés vers un hôpital public, donc qui était l'hôpital dans lequel j'avais donné mes ovocytes. Et là, on a été pris en charge pour un parcours d'AMP et de FIV.
En tout cas, alors, vous nous dites que ça a été vraiment presque un choc de, après finalement ce parcours de don, le fait que vous aviez cette représentation d'une... je peux le formuler ainsi, d'une bonne fertilité, d'avoir une bonne fertilité, d'être confrontée à des difficultés.
Ah oui, c'est évident. En fait, moi, j'étais persuadée qu'il pouvait tout m'arriver dans la vie, sauf avoir un problème pour concevoir un enfant. Et ça a été, comme je ne sais pas comment dire, un coup de massue. Ça a été vraiment très dur de se dire qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que personne ne l'a vu avant ? Enfin, est-ce qu'on aurait pu me dire quelque chose ? Est-ce que... Et puis aussi un peu de culpabilité, beaucoup de culpabilité, de me dire, est-ce que les ovocytes que j'ai donnés aux receveuses, est-ce que c'était des bons ovocytes en fait ? Est-ce que ce geste a servi à quelque chose ou est-ce que j'aurais pas dû faire ça en fait ? Donc beaucoup de remises en question et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à repenser au parcours de don de manière beaucoup plus présente.
Et ensuite, comment les choses ont évolué pour vous ?
Donc ensuite, on a fait, dans cet hôpital, on a fait 3 FIV qui ont été des échecs. Ça a été très difficile physiquement et psychologiquement aussi de réussir à passer au-dessus de ces échecs, de se dire il faut continuer à se battre parce qu'on veut vraiment avoir un bébé, on veut vraiment faire ce bébé tous les deux. Et voilà, il ne faut pas lâcher. Donc ça a été un gros combat. Et puis on a fini par changer de centre AMP et on m'a découvert une endométriose assez profonde qui n'avait jamais été découverte avant. J'ai été opérée. Mon conjoint s'est fait opérer aussi parce qu'il avait des varicocèles. Donc il s'est fait opérer quasiment au même moment que moi, en fait. Et on a tenté une 4e FIV, du coup, donc dans cet autre hôpital. Et il se trouve que le premier transfert a fonctionné. Voilà, après un chemin beaucoup plus long et qu'on n'aurait jamais imaginé. Mon conjoint, je lui en avais parlé, bien sûr, de ce parcours que j'avais fait. C'était impensable, en fait, que ça nous arrive, que ça nous arrive. Et bon, bah finalement...
Dans votre propre parcours pour concevoir un enfant, Laure, est-ce qu'à un moment donné, avant peut-être de changer de centre, il a été question pour vous d'avoir recours à un don d'ovocytes ?
Oui, alors après la 3e FIV qui n'avait pas fonctionné, comme les résultats en termes de nombre d'embryons après chaque tentative était vraiment très mauvais, la médecin qui nous suivait à l'hôpital nous a orientés vers le Sécos. Donc le même Sécos où j'avais donné, parce qu'elle nous a dit qu'il y avait moins de 5% de chances que ça marche avec mes ovocytes et qu'à mon âge, j'ai 37 ans, qu'à mon âge, ce serait, voilà, ça ne marcherait pas et que du coup, c'était obligatoire de passer par donc un don. Elle nous a parlé aussi d'un don à l'étranger pour aller un petit peu plus vite. Donc voilà, on est un petit peu tombé des nues parce qu'après cette 3e FIV, on espérait quand même encore un petit peu, on avait quand même encore un petit peu d'espoir. Je ne sais pas si on en aurait refait une 4e de nous-mêmes, mais en tout cas, c'était très choquant de s'entendre dire, voilà, madame, vous avez 5% de chance de concevoir un enfant avec vos propres gamètes. Il faut aller chercher du coup les gamètes de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça a été psychologiquement très compliqué parce que j'ai eu cette impression de me dire, mais on me donne des ovocytes, ça veut dire que j'ai donné des ovocytes à quelqu'un et maintenant je viens les reprendre. Cette notion de reprendre quelque chose en fait que j'avais donné, c'était pas du tout acceptable pour moi. Je trouvais ça très très dur parce que comme si j'allais voler quelque chose à quelqu'un que j'avais donné et j'allais reprendre à quelqu'un. Donc ça n'allait pas du tout. Voilà, c'était très compliqué. Avant de changer de centre, du coup, voilà, c'était notre seule alternative. Donc du coup, on s'est quand même inscrit au Sécos. On a eu un rendez-vous. On a mis un petit peu de temps à avoir un rendez-vous, mais on a eu un rendez-vous. Et on nous a annoncé des délais qui étaient très très longs. On a rencontré une psychologue aussi. Là, pareil, c'était encore très difficile pour moi parce que je me suis dit, il va y avoir aussi peut-être du jugement, enfin je sais pas, j'étais pas à l'aise avec le fait de rencontrer une psychologue dans le cadre de cette démarche, alors que moi-même par ailleurs je voyais une psychologue en ville pour moi, ce qui me posait pas de problème, mais le fait d'être dans cette démarche, de voir la psychologue, c'était assez compliqué. Voilà, et il se trouve qu'on a changé de centre, donc du coup on n'a pas donné suite à cette demande de gamètes, parce que c'est les opérations qui ont fait que la qualité de mes ovocytes s'est améliorée. Je ne sais pas, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé, mais voilà, en tout cas, moi j'étais contente de laisser ça derrière moi et de ne pas avoir recours aux dons. J'ai donné le fait de reprendre des ovocytes. J'aurais vraiment eu l'impression de prendre quelque chose que j'avais donné à quelqu'un, en fait.
En dehors de cette dimension-là, est-ce que la possibilité d'avoir recours à ce don pour vous a amené d'autres questions ou d'autres inquiétudes quant à la construction de votre parentalité, de votre maternité ?
Oui, bien sûr, parce que du coup, c'est une chose de donner ses ovocytes et de dire bah, « je donne des ovocytes, il y a un enfant qui va peut-être naître quelque part ». Et voilà, moi je serai la génitrice biologique, mais je n'aurai pas de rapport avec cet enfant. Et se dire, mon enfant va être un enfant qui n'aura pas mes gènes. Donc, des questions que je ne m'étais pas posées forcément avant, je m'étais dit, ça, ce n'est pas mon problème, en fait, c'est le problème des receveurs, en fait. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. À ce moment-là, je me les suis posées pour moi, en fait. Et c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Alors, au début, j'avais l'impression que c'était très clair, parce qu'ayant donné, du coup, j'étais sûre que. Bah, ça irait tout seul. Et en fait, non, c'est vrai qu'on se pose quand même des questions. On peut se dire quand même, tiens, bah, mon enfant potentiellement ne me ressemblera pas. Il aura peut-être pas le même caractère que moi. Bon, enfin, en même temps, c'est pas parce qu'un enfant est fait avec ses gamètes qu'il a le même caractère que soi. Mais je sais pas, c'est des questions un petit peu bêtes qui me venaient comme ça, en fait. Ces questions-là, tous les parents ou futurs parents se les posent, c'est sûr.
Est-ce que pour votre conjoint, il y a eu aussi des craintes ou des inquiétudes dans cette perspective à ce moment-là d'avoir recours à un don d'ovocytes ?
Je pense un peu moins parce que ça aurait été ses gamètes à lui, donc la question se posait un peu moins. On avait parlé de l'adoption à un moment et c'était très compliqué pour lui d'imaginer que d'avoir un enfant qui ne soit pas le sien biologiquement. Donc j'imagine que si on avait dû avoir recours à un don de spermatozoïdes, ça aurait été différent, mais... Là, pour lui, oui, c'était des interrogations parce que c'est surtout de refaire encore. Enfin, là, on était arrivé à un moment où on était assez fatigué. Enfin, on avait un peu envie aussi de laisser tomber parce que on avait du mal à y croire et ça devenait vraiment, vraiment compliqué.
Dans tout ce parcours, là, vous nous avez dit, voilà, vous avez, dans le cadre du parcours médical à l'hôpital, vu notamment des psychologues, vous avez été suivi à côté. Est-ce que vous avez fait d'autres choses pour voilà, vous aider, être accompagné dans tout ce parcours ?
Oui, alors déjà, j'ai commencé à avoir une psychologue en ville, parce que, alors c'était la première fois que je, enfin, à part les psychologues pour le Sécos, mais c'est la première fois que je voyais une psychologue et je ne pouvais plus m'en sortir. De toute façon, j'y arrivais plus toute seule, mon conjoint n'arrivait plus non plus... à m'aider, puis c'était trop difficile pour lui. Donc là, je me suis dit, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à consulter quelqu'un et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait avancer sur pas mal de choses par rapport à ce parcours, mais aussi par rapport à d'autres choses. Un des points quand même positifs du parcours. Et j'ai essayé un petit peu d'autres choses un petit peu plus alternatives, comme la sophrologie, par exemple, ou l'acupuncture, qui ont fait beaucoup de bien. Qui voilà, permettent de prendre un temps pour soi, un temps où on s'occupe que de soi. Et on n'est plus vraiment dans le médical, donc du coup, on est dans quelque chose de plus apaisé. Moi, je me sentais, en tout cas, ça m'apaisait, ça me faisait beaucoup de bien. Et j'ai aussi rejoint une association qui s'appelle BAMP, qui s'occupe d'apporter du soutien à des couples en parcours, justement, donc de parcours d'infertilité. Et voilà, je suis devenue bénévole pour l'antenne de Paris. Et voilà, on organise des groupes de parole. Et au début, j'étais participante des groupes de parole. Et en fait, voilà, j'ai été très, très convaincue par le message de l'association. Et du coup, je suis devenue bénévole du coup, dans l'asso.
Merci beaucoup, Laure. Je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte, Marion Cano. Bonjour Marion Cano, vous êtes psychologue clinicienne et maître de conférences en psychologie clinique, psychopathologie psychanalytique de la périnatalité et de la première enfance à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'autrice du livre « Devenir parent grâce à un don d'ovocytes » aux éditions RS dans la collection « La vie de l'enfant ». Le point de départ de vos réflexions sur ce sujet est parti d'une recherche universitaire menée il y a quelques années au sein d'un CECOS, donc les CECOS dont nous ont parlé Laure, qui sont les centres d'études de conservation des œufs et du sperme, durant laquelle vous avez rencontré, pendant la grossesse et après la naissance de leur enfant, des femmes et des hommes qui avaient reçu un don d'ovocytes. Puis ces réflexions se sont enrichies au fil des années dans le cadre de votre pratique clinique. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne de nombreuses femmes et des couples en parcours de PMA confrontés à une infertilité qui, après un long parcours de tentatives, bien souvent avec leurs propres gamètes, de nombreux échecs, se tournent vers le don d'ovocytes, pour beaucoup à l'étranger et de plus en plus en France. Pour devenir parent, la dimension biologique et génétique n'est ni nécessaire ni suffisante. Cependant, ce don n'est pour autant pas anodin. Il implique bien souvent de renoncer à un certain mode de conception, à ses gènes, de composer avec une donneuse, d'être impacté dans la construction de son devenir parent et qu'il y ait potentiellement des conséquences pour l'enfant à venir. Autant de dimensions de questions à prendre en compte dans ces parcours loin des sentiers battus. Je suis très heureuse d'évoquer avec vous, Marion, toutes ces questions qui animent ma clinique quotidienne. Tout d'abord, Marion, de quoi parle-t-on quand on parle de don d'ovocytes ?
Alors, le don d'ovocytes, c'est une technique de l'assistance médicale à la procréation qui est destinée aux couples dont la femme ne possède pas ou plus suffisamment d'ovocytes pour être enceinte. Elle peut aussi être proposée, cette technique, aux femmes qui ne souhaitent pas prendre le risque de transmettre une maladie génétique, mais les demandes dans ce contexte sont assez rares. Pour les couples de femmes et les femmes seules, si un don d'ovocytes est nécessaire, il s'associera nécessairement au don de spermatozoïdes, donc on parlera de double don de gamètes. Alors en France, il est pratiqué depuis 1987, il est anonyme et gratuit, et sur le plan technique, il consiste donc à transférer dans l'utérus de la receveuse les embryons qui sont issus de la fécondation in vitro, des ovocytes d'une donneuse et du sperme du conjoint. Donc en France, les donneuses sont des femmes en bonne santé, fertiles, âgées de moins de 38 ans, et les receveuses doivent avoir moins de 43 ans. Alors, depuis le 1er septembre 2022, la règle du strict anonymat a été modifiée, puisque les personnes nées d'un don de gamètes pourront, si elles le souhaitent à leur majorité, accéder à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur. Néanmoins, et ça c'est important de le préciser, il n'existe aucun lien de filiation entre l'enfant et le tiers qui a donné ses gamètes. Alors actuellement, pour vous donner un peu un ordre d'idée, un peu plus de 3% des enfants nés en France sont issus d'une assistance médicale à la procréation. Donc pour l'année 2019, ça représente à peu près 27 000 enfants sur environ 753 000 naissances. Et la majorité de ces enfants a été conçue grâce à une AMP qui utilise les gamètes des deux parents. Seule une minorité, 5% environ, ont été conçus grâce à un don de gamètes, donc don de spermatozoïdes, don d'ovocytes ou accueil d'embryons. Et donc maintenant, on va rajouter le double don de gamètes. Et donc pour les enfants qui sont conçus grâce à un don d'ovocytes réalisé en France, c'est à peu près 409 enfants pour 2019. Et ce chiffre est relativement stable depuis une quinzaine d'années. On est toujours souvent entre 300 et 400 enfants. Alors, à vrai dire, ces chiffres sont très inférieurs à la réalité puisque de nombreux couples se dirigent à l'étranger, notamment en raison du long délai d'attente lié à la pénurie de donneuses en France et aussi lorsque la femme a dépassé l'âge légal d'une AMP en France.
Donc 43 ans. Quelles sont, Marion, les causes d'infertilité qui, du coup, peuvent amener certaines femmes ou certains couples à recourir à ce don d'ovocytes ?
Alors, souvent, ce sont donc des situations où soit les femmes ne produisent pas suffisamment d'ovocytes ou alors les ovocytes sont dits de mauvaise qualité. Donc, on va avoir des insuffisances ovariennes avec un degré de sévérité plus ou moins important, pouvant aller jusqu'à ce qu'on appelle des ménopauses précoces, c'est-à-dire ce sont des jeunes femmes qui n'ont plus de fonctionnement ovarien. Et là, à ce moment-là, le don d'ovocytes est la seule possibilité pour ces couples. Donc, ce qui fait qu'on va avoir plusieurs types de parcours, soit des couples à qui on aura déjà proposé de faire appel à une aide médicale à la procréation avec leurs gamètes. Et puis, ces essais auront été infructueux et on leur proposera un don d'ovocytes. Soit parfois ça va être des couples à qui on propose, dès le diagnostic d'infertilité, lorsque c'est le cas d'une ménopause précoce, de recourir à un ovocyte puisqu'il n'y a pas d'autre alternative possible.
Et est-ce que du coup dans ces deux chemins différents, s'il y a un chemin où il y a eu, comme nous en a témoigné d'ailleurs Laure, parfois beaucoup d'essais, des échecs, c'est très douloureux. Donc là, l'option, on va dire, peut-être un peu trivial de le dire comme ça, mais du don, voilà, une énième blessure, est-ce que du coup, il y a une différence entre finalement ce moment où on a recours, ou en tout cas cette question du don d'ovocytes se pose?
Alors déjà, ça va être variable selon les personnes. Je pense que Laure en a bien témoigné aussi, c'est le fait que la découverte d'une infertilité est véritablement un choc, constitue souvent un traumatisme associé à une blessure narcissique. Et donc les femmes disent bien déjà comment le parcours d'infertilité atteint leur sentiment d'être une femme, elles se sentent blessées, dévalorisées, elles craignent souvent de ne plus être aimées par leur conjoint. L'infertilité aussi a un impact, et Laure en a témoigné aussi, sur le couple. C'est-à-dire que le couple est souvent confronté à une question qu'il n'avait pas anticipée. Est-ce que notre couple pourra tenir si nous n'avons pas d'enfant ? Le fait que la sexualité aussi conjugale ne donne pas lieu à un enfant est souvent une blessure. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que, avec la banalisation des techniques de l'AMP, comme la FIV par exemple existe depuis longtemps, on peut imaginer que voilà, c'est entré comme un mode de conception possible. Mais pour le couple, c'est souvent une blessure, ça n'a rien d'anodin. Donc déjà, il y a tout ce parcours-là avant le don d'ovocytes. Souvent, lorsqu'on propose au couple de recourir à une AMP, ça réintroduit un peu d'espoir. Et puis Laure l'a bien dit. Et puis en fait, il y a un certain nombre d'échecs qui vont venir réactiver la souffrance associée. Et donc, pour répondre à votre question, on va avoir des femmes qui vont réussir à se saisir de cette temporalité-là pour cheminer ensuite vers le don d'ovocytes, contrairement aux femmes à qui on va donner aucune possibilité, à qui on va dire il n'y a que le don d'ovocytes et qui vont très mal le vivre. Mais il y a aussi des femmes qui disent très bien comment elles ont été très éprouvées par ce parcours et que quand on leur a proposé le don d'ovocytes, bah, c'est comme si elles n'avaient plus le choix. Elles étaient à ce moment-là trop fragilisées en fait pour prendre le temps de réfléchir à ce que ça impliquait pour elles le don d'ovocytes. Donc j'ai envie de dire vraiment c'est variable.
Qu'est-ce qui amène, vous évoquiez la question de l'étranger, qu'est-ce qui amène les femmes ou les couples à avoir recours à ce don d'ovocytes à l'étranger ?
Donc les femmes qui vont avoir recours à un don d'ovocytes à l'étranger, souvent c'est le délai d'attente. Il faut savoir que selon les centres, on a une attente en moyenne de 2 à 3 ans. Et lorsque les femmes ont eu déjà un long parcours avant, les médecins orientent vers, souvent, parlent de l'étranger. Et donc ça, c'est vrai que ça va être un parcours un peu différent que celui dans un parcours en France, puisque les couples vont devoir trouver une clinique étrangère. Souvent, c'est un parcours qui va être très coûteux financièrement, en plus du déplacement, des hébergements. Et puis aussi, les couples vont devoir se poser des questions sur les règles éthiques qui encadrent le don d'ovocytes à l'étranger. Parce qu'on a différents types de règles. Dans certains pays, c'est anonyme, dans d'autres, non. Dans d'autres pays, on peut même choisir la donneuse. Autant quand les couples font appel à un don d'ovocytes en France, ils doivent faire face aux règles du don d'ovocytes là. Ils peuvent être amenés à se dire, est-ce qu'il vaut mieux qu'on choisisse un pays où le don est anonyme ou pas? Et puis aussi le fait de savoir que la donneuse est rémunérée. Alors les cliniques ne parlent pas de rémunération, mais plutôt de compensation financière. Mais quand même, dans l'esprit des couples, souvent il y a l'idée d'argent. Et c'est vrai qu'il y a certains couples qui se disent, lorsqu'ils se questionnent sur le fait de s'orienter vers un pays étranger, qui sont ennuyés par le fait de ne pas savoir qui sont ces donneuses véritablement. Est-ce qu'elles donnent vraiment parce qu'elles souhaitent aider un couple ou c'est parce qu'elles sont en difficulté financière? Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas d'inconnus qui rajoutent des questionnements.
Oui, des questions qui parfois sont pas simples. Et je peux entendre moi aussi le sentiment, comme il y a cette dimension monétaire, d'aller acheter aussi un bébé, voilà, à travers ces gamètes, ce qui parfois peut générer aussi plein de choses compliquées. Du coup, puisqu'on parle des donneuses, qui sont ces donneuses ? Parce qu'en effet, il y a énormément de questionnements. À travers le témoignage de Laure, on peut un peu plus se représenter les femmes qui donnent en France. Qui sont-elles ?
Alors, les donneuses en France sont des femmes donc majeures, évidemment, qui sont âgées donc de moins de 38 ans. Et donc, Laure l'a bien expliqué, lors d'une première consultation médicale, le médecin donc, va donner des informations sur le don de gamètes, sur les effets secondaires. On recueille le consentement de la donneuse, et la donneuse a le droit de revenir sur son consentement jusqu'à l'utilisation effective de ses gamètes. Un bilan médical donc, est effectué afin d'évaluer à la fois la fertilité, mais aussi tout ce que Laure a pu décrire sur les antécédents médicaux. Donc on a un cariotype qui est réalisé, on a des bilans hormonaux et puis des tests sérologiques. Et ensuite, effectivement, on propose un entretien avec un ou une psychologue. Alors c'est intéressant ce qu'a pu dire Laure parce que on sait que pour les couples qui sont en demande d'un don d'ovocyte, pour eux, cet entretien n'est jamais très simple. Et je trouve que c'est intéressant d'entendre le discours de Laure sur le fait qu'elle appréhendait cet entretien en disant « Mais qu'est-ce qu'on va me demander? Est-ce qu'on va me juger de donner mes ovocytes alors que je n'ai pas encore eu d'enfant ?» En tout cas, effectivement, l'idée de cet entretien, c'est d'avoir un espace de parole, de temps de réflexion sur le don. Et puis, évidemment, de s'assurer que la donneuse est quand même un peu un minimum au clair avec son geste, c'est-à-dire qu'effectivement, elle ne donne pas des enfants, elle donne des cellules à partir desquelles pourront être fabriqués des enfants, mais ce n'est pas effectivement un don d'enfant. Alors sur le plan médical, effectivement, il va y avoir une stimulation ovarienne avec des injections pendant 10 à 12 jours, avec des contrôles échographiques, des prises de sang pour s'assurer de la maturation des ovocytes. Et puis, quand c'est le moment, il y a une ponction des ovocytes par voie vaginale, sous anesthésie générale ou locale. Et puis, ces ovocytes seront soit utilisés pour être fécondés in vitro, ou alors conservés grâce à une vitrification pour être utilisés ultérieurement pour un don d'ovocytes.
Du coup, en France, alors la question de l'anonymat a évolué avec la révision de la loi de bioéthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Marion ? En tout cas, autrefois, quand vous avez donné l'or, votre don était entièrement anonyme. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, voilà, des donneuses qui ont donné de manière anonyme ? Est-ce qu'elles peuvent demander à ce que ce don, l'anonymat de leur don soit levé ? Aujourd'hui, voilà, il ne l'est plus. Voilà, comment les choses s'organisent un peu ?
Alors, il y a deux situations différentes. Il y a les enfants qui seront conçus grâce à un don de gamètes à partir de septembre 2022, qui, eux, auront la possibilité, sous réserve qu'ils en soient informés, hein, de leur modalité de conception, d'accéder aux données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur. Donc, ils feront une demande auprès d'une commission qui s'appelle la CAPAD. Et donc, cette commission leur transmettra ces informations. Pour les enfants qui ont été conçus auparavant, l'idée, il y a plusieurs possibilités. Soit les anciennes donneuses se manifestent auprès de cette commission en disant « Moi, je suis d'accord pour transmettre des données non identifiantes ou mon identité ». Ou soit, si les donneuses ne se manifestent pas et qu'un enfant fait une demande, alors la commission va interroger la donneuse pour savoir si elle est d'accord pour transmettre son identité. En sachant que si la donneuse n'est pas d'accord, l'enfant ne pourra pas donc accéder à ces données.
Quelle est la différence entre données non identifiantes et l'identité ?
Données non identifiantes, c'est l'âge de la donneuse, sa situation au moment du don, ses motivations. Elle peut rédiger un petit papier avec ses motivations.
Ses antécédents médicaux.
Ses antécédents médicaux. Donc, on ne peut pas identifier la donneuse mais avec ces données-là, mais ça permet quand même à l'enfant, certains enfants, pour eux, c'est juste suffisant. Ils se posent des questions sur pourquoi la donneuse a fait un don, en sachant qu'effectivement, comme souvent Laure a pu le dire, ce sont des femmes qui ont donné pour aider d'autres femmes à avoir un enfant. Donc, c'est vraiment un acte de solidarité féminine. Parfois même, il y a beaucoup de donneuses en France qui ont été sensibilisées au don par un couple qui était en attente de don d'ovocytes. Donc, c'est important pour l'enfant d'avoir un peu une représentation de la raison pour laquelle la femme a donné.
C'est la donneuse qui choisit si elle transmet son identité, c'est-à-dire son nom, potentiellement ses coordonnées, ou que des informations non identifiantes ?
Après 2022, c'est les deux. Je ne sais pas si c'est possible pour la donneuse de dire « moi, je souhaite ne transmettre que des données non identifiantes ». L'idée, c'est que les deux puissent être transmis et c'est l'enfant qui fait la demande.
Ah, de l'un ou de l'autre. D'accord. Okay.
Ouais, suite au parcours, justement, et à la modification de la loi, comme j'avais quand même pas mal réfléchi de par mon parcours, j'ai eu envie de changer donc, ce qui avait été fait, puisque moi, j'ai donné avant la modification de la loi. Et du coup, j'ai appelé justement la CAPAD et mon ancien SECOS pour leur dire que je souhaitais lever l'anonymat sur mon don. Et effectivement, donc j'ai donné, comme Marion vous avait expliqué, donc les données non identifiantes et identifiantes. C'est assez marrant d'ailleurs, dans les données non identifiantes, il y a aussi l'état de la donneuse au moment du don. Donc j'ai dû mettre je crois que c'était une note entre 1 et 10 sur mon état, comment je me sentais au moment du don. Avant, je ne me souviens pas en tout cas qu'on m'ait demandé si je voulais donner des données non identifiantes. Je suis presque sûre que c'était pas le cas.
Non, non, oui, parce qu'avant, au moment de votre don, l'anonymat était total et d'ailleurs... Ce changement n'est pas évident pour les médecins parce qu'ils ont un peu l'impression de revenir sur ce qu'ils ont garanti aux donneurs et aux donneuses en disant « voilà, votre don sera strictement anonyme ». C'est vrai que pour les donneurs, ils en gardent le droit avant 2022. Mais c'est vrai que ça nécessite de se re-questionner quand même pour les donneurs, de se dire « bon alors finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je transmets ces données ou pas ?» de nouveau, il faut un peu réfléchir à cette démarche.
Quand vous parliez des motivations, voilà, vraiment l'envie, on l'a entendu chez Laure, d'aider, de solidarité féminine, il y avait aussi, et il me semble que c'est toujours le cas, la possibilité, vous disiez souvent les donneuses sont des donneuses sensibilisées parce que dans leur entourage, quelqu'un est concerné par cette question du don d'ovocytes, l'idée de, quand soi-même on en a besoin, d'aller chercher une femme de son entourage pour faire un don, pour soi-même, alors on ne recevra pas ce don, mais pour soi-même avancer un petit peu plus vite dans la liste d'attente.
Alors, c'est vrai que ça, c'est une pratique que les SECOS ont eue. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les SECOS ont essayé de trouver des solutions pour faire face à la pénurie des donneuses et que, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, dans certains centres, on disait quand même aux couples que s'ils souhaitaient avoir accès aux donneurs, il fallait qu'ils trouvent une donneuse dans leur entourage. Bien sûr qu'ils ne recevraient pas les ovocytes de cette donneuse, mais que cela permettrait d'accéder aux dons. Là, la loi est vraiment, c'est écrit noir sur blanc, il est interdit de subordonner un don à un contre-don, en quelque sorte. Mais c'est vrai que les centres continuent à sensibiliser les couples sur le fait que c'est important de pouvoir trouver des donneuses. Ce qui n'est pas évident pour les couples, parce que ça veut dire qu'il faut parler à l'entourage de son infertilité. On n'a peut-être pas envie de le faire. Et puis aussi, ça peut mettre dans une position de dette à l'égard de la donneuse qui, certes, ne donne pas pour soi, mais qui aide indirectement en faisant ce don.
Et puis, l'autre possibilité où vous, Laure, vous nous, en tout cas peut-être pour motiver justement les donneuses, cette possibilité de l'autoconservation. Alors, aujourd'hui, une femme peut, sans raison médicale, autoconserver ses gamètes, mais ce n'était pas le cas aussi avant. Donc, il y avait aussi cette possibilité de proposer de donner une partie puis conserver un peu pour soi.
Effectivement, pour les donneuses qui n'étaient pas encore mères, jusqu'à 2021, on donnait la possibilité, sous réserve qu'il y ait suffisamment d'ovocytes, de conserver des ovocytes pour elles-mêmes. Mais cette possibilité n'est plus autorisée depuis que l'autoconservation des ovocytes est possible, sans raison médicale, est possible en France.
Vous nous disiez alors... Pour revenir à cette question du cheminement vers le don d'ovocytes, on parlait tout à l'heure voilà, qu'il y a deux possibilités. Parfois, c'est déjà après un long parcours ou parfois, c'est un diagnostic d'emblée. En tout cas, voilà, que chacune de ces situations va susciter voilà, souvent beaucoup d'émotions, renforcer, amener une blessure ou renforcer la blessure de l'infertilité. Quelles sont les craintes qui sont exprimées par les femmes et les hommes à ce moment-là ?
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on propose au couple de recevoir un ovocyte, rares sont les couples qui l'acceptent et le témoignage de Laure est assez illustratif. C'est-à-dire que les femmes, souvent, sont blessées à l'idée de devoir faire appel à l'aide d'une autre femme pour être enceinte. Ça vient renforcer d'une certaine façon la blessure de l'infertilité. Et effectivement, il y a un certain nombre de craintes autour du don d'ovocytes. La crainte de ne pas être reconnue comme mère par l'enfant, que la donneuse pourrait souhaiter avoir un lien plus tard avec l'enfant. En sachant que toutes ces craintes-là, elles n'ont pas de lien direct avec la levée de l'anonymat. C'est des craintes qu'on observait déjà chez les personnes avant même la levée de l'anonymat. Et donc, on peut imaginer que ce changement va quand même introduire aussi d'autres types de craintes de « et si mon enfant rencontre la donneuse, comment ça va se passer ?» Donc, ça montre aussi toute l'importance d'accompagner au mieux ces couples par rapport à ces changements. Et les femmes aussi disent qu'elles sont tristes à l'idée que leur enfant ne leur ressemblera pas. Alors souvent, effectivement, on dit « voilà, la filiation s'appuie sur d'autres dimensions que la filiation biologique, mais c'est important d'entendre cette tristesse et cette déception pour les femmes. Il faut savoir que pour toute personne, le désir d'avoir un enfant comporte une dimension narcissique, avec cet espoir de mettre au monde un enfant proche de celui qu'on aurait aimé être ou qui accomplira ce qu'on n'a pas soi-même accompli. Et donc, dans un parcours classique, des parents vont être pris dans cette illusion de mettre au monde un enfant semblable à soi. Et puis au fil de la grossesse, vers la fin de la grossesse, on se prépare à rencontrer un enfant différent de celui qu'on a imaginé et rêvé. Et pour ces femmes à qui on propose un ovocyte, c'est comme si cette rêverie d'un enfant semblable à soi ne pouvait pas être possible. Vraiment, la non-transmission de la filiation génétique est vécue comme « mon enfant ne sera pas de moi, il ne me ressemblera pas ». Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, parce que souvent les médecins rassurent les femmes en disant « mais madame, vous leur transmettrez plein d'autres choses ». Mais elles ont besoin d'être entendues par rapport à cette difficulté-là. L'autre difficulté aussi qu'elles peuvent évoquer, c'est le fait qu'elles sont gênées à l'idée que leur conjoint serait plus parent qu'elles. Il y a des femmes qui veulent dire...
d'inégalité.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme d'asymétrie sur le plan de la filiation, puisque l'homme va transmettre sa filiation génétique et pas la femme. Donc ça aussi, elles peuvent le dire, et donc c'est important aussi de l'entendre. Alors, généralement, peut-être qu'on peut parler aussi un peu des hommes, parce que les hommes sont aussi touchés par ces questions. C'est pas parce qu'ils ne sont pas touchés par l'infertilité ou qu'ils transmettent leur filiation génétique qu'ils ne sont pas traversés par des questionnements liés aux ovocytes. Bien sûr, Laure le disait tout à l'heure, ils ne sont pas touchés de la même façon que les femmes puisqu'ils vont pouvoir transmettre leur filiation génétique. Mais il se pose quand même un certain nombre de questions autour de la donneuse. Par exemple, certains peuvent être traversés par l'idée que ça serait comme s'ils faisaient un enfant avec une autre femme. Et ça, c'est important de l'avoir aussi à l'esprit parce que ça suscite beaucoup de culpabilité. Et ça me fait penser à une femme qui me disait « mais je comprends pas, on avait déjà parlé de la possibilité du don d'ovocytes. Là, nous y sommes vraiment confrontés et mon conjoint fait marche arrière. Il est contre cette démarche. Je ne comprends pas sa réaction. » Et on a pu évoquer ensemble le fait que finalement, pour lui, de devoir avancer vers cette démarche, c'était aussi devoir faire face à ce que ça signifiait pour lui. Ça signifiait pour lui de concevoir un enfant dans ce contexte-là. Certains hommes aussi peuvent s'interroger sur cette donneuse. Est-ce qu'elle ne va pas réclamer l'enfant plus tard? Donc, ils ne sont pas autant inquiets que les femmes par rapport à ces questions-là. Mais quand même, c'est un questionnement présent. Et donc, avant le don d'ovocytes, ce qu'on observe de façon quasiment systématique, c'est que les couples vont minimiser le rôle de la donneuse, insister sur l'importance de la grossesse, et dire voilà, que ce qui importe, c'est la grossesse qui fabrique l'enfant, que le don d'ovocytes n'est pas un don d'enfant. Mais pour que tout ça, ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait un travail de réflexion préalable. Il ne faut pas juste que ça soit une construction qui cherche à fermer le couvercle, entre guillemets, pour ne surtout pas aller voir ce que ça signifie pour le couple de concevoir un enfant grâce à un don d'ovocytes. Mais il faut vraiment que ça vienne étayer un travail de réflexion préalable.
Je crois qu'il y a aussi une question un peu de deuil de faire un enfant avec ses gamètes et pour le conjoint, du coup, de deuil de faire un enfant avec les gamètes de sa conjointe.
Absolument.
Quelque chose qu'il faut laisser un peu derrière soi et accepter en fait.
Oui, la dimension du deuil, l'inquiétude de tous ces jeux de ressemblance. C'est vrai, quand un bébé naît, tout le monde autour du berceau, à qui il ressemble, ce jeu des ressemblances fait vraiment partie du processus ou aussi comment l'extérieur va affilier cet enfant à ses parents. Donc il y a tous ces jeux-là qui se jouent.
Il faut savoir que les couples sont très peu accompagnés psychologiquement pour penser ces questions. Vraiment, ils sont souvent assez seuls et isolés dans leurs questionnements. Et un certain nombre vont s'engager dans le don d'ovocytes sans vraiment avoir réfléchi à ces questions. Et parfois même, le désir de vivre une grossesse et d'avoir un enfant est tel que même si le don d'ovocytes suscite beaucoup d'inquiétudes, les couples vont quand même s'engager dans cette démarche. Ce qui signifie que parfois, tout ce qui n'a pas été traité avant le don risque de se ressurgir pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant.
Oui, ou d'ailleurs, là-dedans, une fois que la femme est enceinte, il y a quelque chose qui vient annuler. Et souvent, moi, certains couples que je peux accompagner sont surpris finalement que cette image de la donneuse ressurgisse au cours de la grossesse, au moment de la naissance, ou parfois même dans le postpartum, de manière un peu violente ou désagréable. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du travail, de quelle place on va donner à cette donneuse. Et qu'au moment où les futurs parents ont recours à ce don, cette place prend toute la place. La question de la donneuse souvent prend toute la place. Évidemment, cette place, elle va être aménagée, elle va se construire, se modifier tout au long de la vie. Souvent, moi, je dis à mes patients, est-ce qu'on vous demande au moindre dîner où vous allez, comment vous avez été conçu ? Donc, cette question qui est centrale à un moment donné, elle est fondatrice pour la suite, mais elle n'est pas centrale dans le quotidien de la vie par la suite non plus. Donc, les choses se réaménagent.
Oui, absolument. Mais c'est vrai que dans cette question du don d'ovocytes, il faut savoir que pendant de nombreuses années, les professionnels étaient persuadés que la grossesse était suffisante pour aider ces couples à cheminer tranquillement vers leur parentalité, avec cette idée que la grossesse effacerait d'une certaine façon, un peu magiquement, la blessure de l'infertilité, l'existence de la donneuse, la non-transmission de la filiation génétique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu très peu d'études en fait jusqu'à présent sur le don d'ovocytes. Moi, je me souviens quand au tout début, je présentais un peu mes résultats aux Sécos en leur disant « mais voilà comment les femmes vivent ce parcours ». Les médecins me disaient « mais c'est pas possible ». Ils étaient étonnés en fait. Et donc cette idéalisation du rôle de la grossesse, elle est un peu présente chez tout le monde de façon générale, déjà dans le devenir parent. Et donc, c'est important d'accompagner les couples et de leur dire, notamment quand cette idéalisation ne fonctionne pas et que les couples se disent « mais moi, la grossesse, c'est pas suffisant pour moi, c'est pas suffisant pour me convaincre que ça va aller », leur expliquer qu'ils ne sont pas les seuls à se poser ce type de questions et qu'effectivement, ce n'est pas anodin et que c'est important qu'ils cheminent sur ces questions en s'appuyant aussi sur leur histoire personnelle.
Par rapport à la grossesse, on parle de plus en plus de la question de l'épigénétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'épigénétique et quel impact ça a pendant la grossesse ?
Alors, l'épigénétique, c'est un nouveau domaine de la recherche scientifique qui s'intéresse aux effets des facteurs environnementaux sur l'expression génétique. Et donc, l'hypothèse, c'est que dès la grossesse, l'environnement, donc les échanges entre la mère et le fœtus, modifieraient l'expressivité des gènes. Et donc, les femmes et les couples qui envisagent le recours à un don d'ovocytes s'appuient beaucoup sur cette question pour se rassurer sur le fait qu'elles vont transmettre quelque chose à leur enfant. Et donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est important, effectivement, de s'appuyer sur cette idée-là. Mais de nouveau, c'est important aussi que les professionnels ne disent pas aux futurs parents « mais vous savez, il y a l'épigénétique, vous transmettrez forcément des choses ». Bien sûr que oui, c'est important de les rassurer, mais il ne faut pas que cette réassurance vise à mettre à distance leur questionnement. Il faut pouvoir écouter là où ils en sont. Donc c'est pour ça qu'à la fois je trouve ça très bien d'insister à la fois sur l'épigénétique, mais il ne faut pas non plus qu'on retombe dans cette tendance qui consiste à dire au couple « circuler, il n'y a rien à voir ». Il y a l'épigénétique, il y a la grossesse, ne vous inquiétez donc pas, tout se passera pour le mieux.
Oui, le deuil dont Laure parlait, la tristesse que ça peut être, c'est important qu'elle puisse s'exprimer, que les personnes puissent être traversées par celle-ci pour ensuite l'intégrer, la digérer, justement construire cette place du don dans leur histoire.
Et d'ailleurs, on voit, c'est important aussi par rapport à la grossesse, parce que les femmes qui ont mis à distance leurs questionnements ou les angoisses associées au don d'ovocytes peuvent se retrouver avec un certain nombre d'angoisses qui ressurgissent. Donc la crainte de ne pas être considérée comme des mères à part entière, que leur enfant les rejette plus tard, que la donneuse revendiquent un lien de filiation avec l'enfant, et ça peut susciter chez certaines d'entre elles le sentiment d'être une mère porteuse. Et ça, ça suscite énormément de culpabilité chez ces femmes qui sont déjà aussi inquiètes sur leur capacité à reconnaître ce bébé comme le leur. Donc généralement, un accompagnement psychothérapeutique peut les aider, et on voit aussi comment elles essayent de s'appuyer sur la relation nouée in utero avec le fœtus pour construire une relation avec leur enfant. Et les hommes aussi, de leur côté, pendant la grossesse, vont aussi être de nouveau traversés par un certain nombre de questionnements, et c'est important d'y être attentif aussi. Ils vont se poser des questions sur la donneuse, sur leur enfant. Alors c'est vrai que, pour rebondir aussi sur ce que disait Laure, sur l'importance de l'étayage de votre conjoint, c'est-à-dire qu'il vous soutenait beaucoup par rapport à ces questionnements possibles, ce sont souvent des hommes qui sont très sensibles à la souffrance de leur compagne, qu'ils vont beaucoup les étayer et qui vont vraiment être rassurants en disant « Moi, si un jour l'enfant dit « Ma mère n'est pas ma mère », je leur expliquerai. » Et parfois même certains disent « Photo à la pluie », je leur montrerai les photos de la grossesse, que si, ta mère, c'est bien ta mère. Donc il y a une alliance aussi qui est importante entre l'homme et la femme pour pouvoir cheminer le plus sereinement possible.
En fait, je crois qu'il faudrait un accompagnement psy automatique. Parce qu'en fait, c'est bien de voir le psychologue juste avant d'avoir le don, de recevoir le don, mais après, en fait, qu'est-ce qui se passe après? Si on ne fait pas la démarche soi-même d'aller voir quelqu'un, voilà, on fait son chemin tout seul, donc c'est un peu dommage.
Il y a aussi quelque chose, Marion, que je peux observer, moi, pendant la grossesse, c'est le renforcement de ce sentiment d'inquiétante étrangeté à l'égard de ce bébé, qui est à la fois du soi, du non-soi, qui, même dans une conception plus classique, est un étranger. Et donc là, la dimension du don va venir renforcer ce sentiment d'inquiétude.
Absolument. Nous, on a coutume de dire, les psychologues cliniciens de la périnatalité, que de façon générale, lors de la grossesse, les femmes sont traversées par une certaine inquiétante étrangeté de porter ce fœtus qui bouge à l'intérieur de soi, qui est à la fois soi, mais en même temps étranger. Et pour les femmes qui ont recours à un don d'ovocyte, le fait qu'il y ait une partie génétique qui leur échappe, une partie étrangère, eh bien ça peut effectivement renforcer cette inquiétante étrangeté. Et donc on peut avoir des femmes qui font des cauchemars, qui disent « voilà, je rêve que mon bébé est complètement différent de moi, que ça se voit, que ce n'est pas mon bébé ». Et ce qui renvoie de nouveau à la question de « va-t-on se reconnaître ? Vais-je reconnaître ce bébé comme le mien ?» Et parfois aussi, cette question est d'autant plus de la différence est d'autant plus sensible quand le couple n'en a pas du tout parlé à l'entourage. C'est-à-dire qu'il peut craindre, il se dit ça va se voir, ça va se savoir.
Oui, il y a l'inquiétude de est-ce que je vais reconnaître mon bébé, mais est-ce que mon bébé aussi va me reconnaître ?
Absolument. Mais les femmes ont plus de facilité à dire ce bébé va-t-il me reconnaître ? Que vais-je reconnaître ce bébé ? Parce que cette interrogation-là, elle suscite de nouveau beaucoup de culpabilité, de douter à ce sujet.
Du coup, Marion, au moment de la naissance, qu'est-ce qui se joue plus particulièrement à ce moment-là, dans ces situations ?
La naissance, de façon générale, elle est donc anticipée avec ces questions de « va-t-on se reconnaître ? Vais-je aimer ce bébé ? Va-t-il m'aimer ? » Et bien là, ces questions-là, elles sont, pour les femmes qui ont reçu un don d'ovocyte, présentes avec encore plus d'acuité. Et donc, elles vont être très sensibles à la façon dont va se dérouler la naissance. Et notamment, un certain nombre de femmes disent combien elles ont été sensibles à cette première rencontre avec leur bébé, aux échanges de regards. Nous, c'est vrai que psychologue clinicien, on est aussi du coup très attentif dans ces situations-là si l'accouchement ne se passe pas très bien, parce qu'on sait qu'un accouchement qui se passe en urgence par césarienne ou qui est très difficile est un facteur de vulnérabilité de façon générale pour la femme. Mais là, dans la situation du don d'ovocyte, on est encore d'autant plus attentif puisque les femmes vont être très sensibles à tout ce qui va entourer la création du lien avec le bébé. Et je me souviens d'une femme qui disait, son accouchement s'était bien passé, mais au moment de la naissance, elle avait été très perturbée par le fait qu'elle avait le sentiment que son enfant ne la regardait pas. Elle avait l'impression que le bébé se dirigeait vers la voix, vers le père, quand elle l'entendait, mais que son bébé ne la regardait pas. Et elle disait, j'avais l'impression que ça me confirmait cette crainte que mon bébé ne me reconnaissait pas en tant que mère. Donc on voit aussi toutes les projections et toute l'importance d'être vigilants, nous aussi, en tant que professionnels, comment les choses se passent à ce moment-là, au moment de la naissance. Alors ce sont aussi des femmes qui vont être très attentives aux traits de ressemblance du bébé, qui vont beaucoup rechercher des traits de ressemblance avec leur conjoint, notamment. Elles sont aussi souvent rassurées que leur famille, à elles, reconnaissent bien ce bébé comme faisant partie de la famille. Ça, c'est vraiment très important. Voire même, il y a certains grands-parents maternels qui vont dire « Ah, mais regarde, tu faisais exactement pareil quand tu étais bébé. Elle ou il est comme toi. » Donc ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que souvent, l'entourage, quand il est informé, il évite de s'adonner au jeu des ressemblances. Et d'ailleurs, on voit des fois certaines femmes qui sont un peu déçues qu'il n'y ait pas de comparaison sur autre chose que des traits de ressemblance. Mais c'est vrai qu'on voit aussi toute la difficulté parfois de l'entourage de savoir comment se positionner aussi pour ne pas blesser les mères. L'autre point aussi qui est assez manifeste après la naissance de l'enfant, c'est le fait que les femmes vont avoir tendance à chercher des signes du côté de leur bébé qu'il leur montrerait, qu'il les reconnaît comme mère. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va être donc les échanges de sourires, ça va être parfois aussi le fait que le bébé aime être porté par leur mère, voire que leur mère.
Oui, ou ça pèse quand il pleure que dans les bras de la mère.
Absolument. L'allaitement souvent est très investi parce que c'est une façon pour ces femmes de continuer à transmettre quelque chose d'elle. Et là encore, donc on va avoir une diversité de situations. Pour certaines femmes, ces signes de reconnaissance du bébé vont les tranquilliser, les rassurer par rapport au don d'ovocytes. Et puis pour celles qui sont vraiment encore trop insécurisées par cette situation-là, on peut avoir une tendance à surinvestir la relation, c'est-à-dire vouloir tout le temps être avec le bébé, il faut tout le temps qu'il me regarde, parce que sinon s'il ne me regarde pas, je me dis mince, c'est ce qu'il me reconnaît. Et parfois, le père, du coup, peut avoir des difficultés à trouver sa place.
Par rapport au rôle de l'allaitement, en tout cas, j'imagine que peut-être l'allaitement, là aussi, peut avoir un rôle réparateur comme celui de la grossesse, même s'il ne sera pas suffisant, dans cette idée aussi de, vous disiez là, de donner quelque chose qu'elle est la seule à donner à son bébé, mais ça crée aussi une relation particulière.
Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Ça, c'est important pour ces femmes qui ont besoin. En fait, ce qui est particulier dans la situation de l'ovocyte, c'est que ça met en évidence des processus classiques du devenir parent. C'est comment on s'approprie son bébé, comment on noue une relation avec son bébé. Ce que ces femmes ne savent pas, c'est que finalement, ce qu'elles vivent n'est pas très différent de ce que vivent toutes les mères. Mais comme elles n'ont pas transmis leur filiation génétique, il y a tout un tas de questionnements. Elles imaginent qu'elles auraient parfois même à être encore plus des super-mères que les autres pour combler ce qu'elles imaginent ne pas avoir transmis à leur enfant.
Oui, là on peut entendre dans cette volonté de combler vraiment l'importance de la blessure et à quel point c'est venu attaquer dans les compétences maternelles.
Absolument. Et on voit aussi toute l'importance aussi de la place du conjoint, qui va soutenir, qui va valoriser. Et en même temps, c'est important que les pères, dans ce contexte-là, puissent prendre leur place, parce que certains, en tout cas temporairement, peuvent avoir tendance un peu à s'effacer pour laisser toute la place à leur compagne, parce qu'ils savent qu'elle est très blessée par ce parcours, qu'elle est très inquiète. Mais on voit comment c'est important aussi que chacun puisse avoir sa place. Et je parlais tout à l'heure de situations où le don d'ovocytes peut insécuriser certaines femmes. Des fois, certaines femmes qui sont encore très inquiètes, c'est normal d'être très inquiète à ce moment-là. Enfin, nous, les psychologues, les inquiétudes, les questionnements, ça nous pose pas de... Enfin, pour nous, c'est l'ordre de la normalité. Ce qui est important, c'est quand ça vient faire souffrir et que là, on se dit, il faut essayer de réfléchir à ces questions-là. Et en tout cas, il y a certaines femmes qui peuvent se sentir un peu inquiètes de se dire, mais est-ce que mon conjoint va pas revendiquer un lien de filiation privilégié avec mon bébé, ou est-ce que mon enfant ne va pas revendiquer lui aussi un lien de filiation privilégié avec mon conjoint. Donc on voit aussi toute l'importance d'avoir un espace pour toutes ces questions.
D'ailleurs, il me semble qu'on n'a pas précisé, d'un point de vue légal, pour que la filiation soit faite avec la mère et non pas avec la donneuse, il y a un acte chez le notaire, il me semble.
Tout à fait, tout à fait. Un acte de filiation qui ne permet aucun retour en arrière. Donc ça protège à la fois le futur parent, mais aussi l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques situations comme ça dans la situation du don de spermatozoïdes où des hommes qui vivaient très mal, il y a quelques années auparavant, cette proposition, revenaient sur leur position en disant « mais finalement cet enfant n'est pas le mien ». Le consentement chez le notaire fait qu'il y a un lien de filiation, quel que soit le lien de filiation biologique entre l'enfant et son parent.
Donc la loi vient aussi soutenir fortement les parents. Derrière ces questions du don d'ovocytes, de gamètes, même plus largement, il y a vraiment la question de l'impact, des conséquences. Alors là, on peut entendre voilà, dans l'imaginaire collectif voilà, tout un tas de choses. Concrètement, Marion, quel est l'impact de ce don dans la construction de la parentalité ?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a très peu d'études de grande envergure sur le devenir des familles et des enfants conçus grâce à un don gamète. Notamment parce que ces études sont très difficiles à mettre en place, aussi parce que, on en reparlera peut-être après, tous les enfants ne sont pas informés de leur mode de conception. Alors, ce qui est important quand on s'intéresse à ce point, c'est de ne pas être dans une perspective déterministe qui viendrait figer le destin de l'enfant uniquement en lien avec la façon dont il a été conçu. Et en même temps, il faut quand même pouvoir s'interroger sur les influences éventuelles de ce parcours. Dans l'ensemble, les études anglo-saxonnes sur le sujet se veulent plutôt rassurantes. Elles ont quand même un certain nombre de biais parce qu'elles s'appuient sur des auto-questionnaires remplis par les parents et on sait que les parents peuvent avoir tendance à dire que tout va bien, soit pour montrer aux chercheurs justement qu'il n'y a pas de problème, soit aussi parce qu'ils ont des difficultés à pouvoir exprimer des difficultés à ressentir de l'ambivalence à l'égard de l'enfant. Or, tout parent, à un moment donné, ressent de l'ambivalence à l'égard de son enfant. Donc, ce que les psychologues et les pédopsychiatres observent, c'est que il peut y avoir un impact sur la relation parent-enfant et sur le développement de l'enfant lorsque le vécu lié à l'infertilité et à l'AMP est encore douloureux. Il n'y a pas de troubles spécifiques. On est dans des troubles classiques qu'on peut observer chez les enfants. Et on observe aussi des difficultés justement quand la question de l'apport d'un tiers donneur dans la conception et l'absence de transmission de la filiation génétique n'a pas fait l'objet d'un travail de réflexion suffisant. Donc, c'est vraiment variable. On n'a pas d'études vraiment de grande ampleur qui pourraient nous renseigner plus que ce que nous observons, nous, en tant que cliniciens, auprès de ces familles. Ce qui est important, en fait, ce sur quoi on s'accorde, en tout cas, c'est qu'il faut aider ces parents à cheminer autour de ces questions et que probablement, plus ces parents seront à l'aise avec l'histoire qui a précédé de la naissance de l'enfant, mieux l'enfant grandira avec ça.
Oui, il a vraiment la question de la dimension de la souffrance et que de permettre aux parents d'accueillir leur enfant dans les meilleures conditions possibles va être plus favorable, en tout cas on peut le déduire de manière assez logique, que s'ils sont dans un état de souffrance important. Pour revenir à ce que vous disiez là Marion, donc justement sur l'information de l'enfant concernant son mode de conception. Aujourd'hui, voilà, on connaît aussi l'impact des secrets de famille. Voilà, qu'est-ce que vous recommanderiez ou qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette question-là pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors, effectivement, les familles sont quand même de plus en plus sensibilisées à l'importance de ne pas avoir des secrets qui seraient délétères pour l'enfant. Ce qui est intéressant quand on regarde les études internationales, c'est qu'il y a une augmentation du souhait d'informer l'enfant. C'est-à-dire que de plus en plus, les parents souhaitent informer leur enfant parce qu'ils sont notamment sensibles à cette histoire de secret et sensibles à l'idée que c'est une information importante à l'enfant. En revanche, ce qu'on observe dans le même temps, c'est que ça reste compliqué en fait pour les parents d'en parler. On estime à peu près, alors ça va probablement évoluer dans les années à venir, mais que seulement aux alentours de 30% des familles le diraient et on a à peu près les mêmes taux que ce soit le don de spermatozoïdes ou le don d'ovocytes. C'est intéressant parce que on imaginait que ce serait plus difficile pour les familles conçues grâce à un don de spermatozoïde d'en parler, parce qu'on imagine souvent que cette démarche est plus difficile pour les hommes parce que eux, ils n'ont pas la grossesse, contrairement aux femmes qui sont enceintes grâce à un don d'ovocyte. Et on voit que même dans le don d'ovocyte, c'est loin d'être simple. Et donc, c'est vrai que ce qu'on observe dans notre pratique clinique, c'est que, eh bien, il y a quelque chose qui va évoluer entre... Je pense que c'est important de le dire parce que pour les personnes qui sont traversées par ce mouvement-là, c'est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls à l'être. C'est-à-dire qu'avant le don d'ovocyte, ils sont convaincus de l'importance de le dire à l'enfant. Puis, déjà, des fois, dès la grossesse, eh bien, ça devient un peu plus compliqué, cette histoire, parce que, justement, les femmes ont peur de l'impact de cette information sur l'enfant. Et puis, ensuite, dans les premiers temps de vie avec l'enfant, eh bien, on passe, en fait, finalement, de l'idée intellectuelle d'informer à vraiment affectivement ce que ça fait vivre de se projeter dans l'information de l'enfant. Donc ça, encore une fois, c'est important pour les parents de le savoir et donc de les accompagner par rapport à ces questions-là. Et ça revient à toute la question de, finalement, ils vont devoir repenser, mais c'est quoi cette histoire de ovocyte? C'est qui cette donneuse? Et plus ils seront tranquilles avec ces questions-là, plus facilement ils informeront les enfants. C'est vrai que ce qu'on préconise souvent, c'est une information plutôt précoce. Alors, certains disent même déjà dès que l'enfant est bébé, pour un peu s'entraîner à en parler à l'enfant. Et en tout cas, vers 3-4 ans, un enfant peut comprendre ce qu'il en est de sa conception. Et l'idée, c'est une information graduelle, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir y revenir. Dire, au fait, maman, la dernière fois, tu me disais... mais c'est... Et l'enfant va pouvoir reposer des questions. On est loin de l'annonce un peu... solennel, avec un enfant plus grand et qui du coup fait énormément peur aux parents. Et c'est vrai que ce qui va être un
peu... Et qui d'ailleurs sont souvent, en tout cas les enfants qui ont été confrontés à ces Absolument. Situations-là peuvent témoigner, certains aujourd'hui, que ce moment de convocation, d'annonce peut être très effractant, presque voilà, traumatique parfois, et très inquiétant en tout cas.
Absolument. Les couples... c'est pas une information comme une autre quand même à transmettre aux enfants. Et donc, comment on va parler de la donneuse, comment on la désigne. Et c'est important aussi que ça soit quelque chose qui soit pensé au sein du couple. Ça, c'est vraiment important que le couple soit vraiment en accord. Et c'est aussi, c'est ce qu'on travaille aussi avec les couples, quand ils sont tentés par l'idée du secret. Alors, c'est important finalement déjà de dire au couple qu'ils ont droit de dire ou de ne pas dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent penser... On n'est pas dans la dictature de la transparence. Mais c'est vrai que le secret fait courir le risque quand même que l'un des membres du couple en parle à l'enfant aussi. Parfois, certains couples qui décident de maintenir le secret, quand ils se projettent vers le futur, ils se disent « mais si on se sépare...
Oui, ou d'autres personnes de la famille ou des amis s'ils
Absolument.
Sont informés.
S'ils sont informés. Mais là, je parle vraiment pour des personnes où le secret est resté total et l'entourage n'est pas informé. Mais c'est vrai que souvent, en fait, les parents souhaitent en parler aussi parce que l'entourage est informé et qu'ils ne veulent pas que l'enfant l'apprenne par quelqu'un d'autre qu'eux.
En tout cas, pendant longtemps, concernant le don de sperme, les SECOS recommandaient aux parents de ne rien dire à l'enfant. Et on voit bien que cette génération d'enfants qui aujourd'hui a entre 35 et 45 ans a beaucoup d'ailleurs milité autour de la révision de la loi de bioéthique pour l'ouverture justement vers le non-anonymat du don où ils témoignent aussi dans de nombreux ouvrages et au sein d'associations voilà, de l'importance de connaître ses origines, de connaître son mode de conception, voilà, qui sont des informations dans la construction identitaire qui sont importantes.
Absolument. Absolument, on est revenu sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'on disait un peu au couple de faire comme si de rien n'était. Mais on voit bien que c'est une illusion parce que les couples ne peuvent pas faire comme si de rien n'était. Et ça a effectivement donné lieu à des révélations extrêmement tardives et assez déstabilisantes pour les enfants qui étaient conçus de cette façon.
Plusieurs fois, Marion, vous avez souligné l'importance d'être accompagné. Comment cet accompagnement, quelle forme peut prendre cet accompagnement?
Alors là, c'est une très grande question. Parce que ce qu'on aimerait, c'est effectivement que les couples déjà puissent se saisir d'un accompagnement dans les services de soins hospitaliers, services d'AMP, de SECOS, pas uniquement lors des entretiens obligatoires qui sont proposés avant le don d'ovocyte, alors ?
Oui, qui sont, on l'a pas dit tout à l'heure, mais souvent perçus comme des entretiens d'évaluation. Alors, Laure et Marion, absolument, vous nous avez bien dit que c'était pas le cas. Mais là, voilà, d'un accompagnement qui serait différent de ces temps-là.
Oui, parce que pour avoir mené ces entretiens, on voyait bien comment les couples s'entraînaient au préalable pour montrer qu'ils étaient très au clair avec leur démarche, parce qu'ils avaient l'impression que s'ils évoquaient des doutes ou des hésitations, ils risquaient de ne pas accéder à leur demande de don de gamètes. Donc il faut qu'il y ait d'autres espaces. Ce qui arrive parfois, c'est que cet entretien proposé avant un don d'ovocytes débouche sur un soutien thérapeutique ou sur une orientation vers un soutien en ville. Et donc, il y a aussi les maternités. C'est important que les parents puissent rencontrer des psychologues de maternité s'ils le souhaitent. Et puis, il y a tout l'accompagnement qui peut être fait par des psychologues en libéral. Il y a aussi tout ce travail qui est proposé par des associations, notamment avec des groupes de parole. Et c'est vrai que souvent, les personnes disent aussi le soutien qu'elles peuvent avoir grâce à ces associations qui leur permettent aussi de partager avec d'autres personnes qui ont une expérience similaire à la leur.
Dans ce que vous dites, je préciserais pour les psychologues en libéral, en tout cas, de pouvoir aller vers quelqu'un qui est formé, informé.
Absolument.
Sur ces questions-là.
Oui, 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 si possible, quelqu'un qui connaît ces enjeux. Et puis, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, il y a aussi des consultations parents-bébés. Les professionnels sont de plus sensibilisés à ces questions, mais quand même, il y a encore un peu de travail. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour sensibiliser les professionnels aux enjeux psychologiques liés au don d'ovocytes, pour que lorsqu'ils rencontrent des personnes concernées, ils puissent aussi les accompagner au mieux.
Cet accompagnement, vous l'avez dit un peu en filigrane de notre échange, mais il est important dès l'amont.
Absolument. Nous, les psychologues, on est un peu embêtés de dire voilà, comment cela devrait avoir lieu. Parce qu'on sait que chaque personne aussi a une temporalité psychique qu'il est important de respecter. C'est ça aussi qui est pas... Quand on navigue un peu entre... À la fois, il faut faire preuve de tact, il faut respecter les mécanismes de défense des personnes, mais il faut essayer aussi qu'il y ait quelque chose qui s'assouplisse pour que les personnes puissent faire un travail au préalable. Donc, de préférence, avant le don d'ovocytes, c'est préférable, mais on a certains couples qui, sur le coup, vont être dans l'action, ne vont pas pouvoir penser, et ça va être plus tard, pendant la grossesse ou après la naissance de l'enfant, qu'ils vont pouvoir s'engager dans ce type de travail.
Et c'est OK aussi.
Oui. Je voulais juste revenir sur le fait que j'insiste souvent sur la complexité de l'expérience du don d'ovocytes. Il ne faut pas que ça fasse peur, en fait, aux personnes qui envisagent cette démarche. Pourquoi j'insiste beaucoup sur cette question-là ? C'est d'une part parce que pour moi, c'est important de sensibiliser les professionnels à cette complexité pour qu'ils accompagnent au mieux les couples et qu'ils les orientent vers des accompagnements psychologiques, mais aussi pour sensibiliser les couples au fait que tous les questionnements qui les traversent sont traversés par d'autres couples. Donc ça, c'est vraiment important que les femmes sachent qu'elles ne sont pas les seules à se poser ce type de questions et que finalement, l'incertitude et le doute est inhérent à la parentalité. Toutes ces questions, vais-je reconnaître mon enfant comme le mien ? Va-t-il m'aimer ? Vais-je être un parent à la hauteur ? Ce sont des questions que tous les parents se posent et que imaginer que la filiation génétique rendrait certaine la maternité est un leurre. Donc ça, pour moi, c'est important de le dire parce que c'est important que les femmes sachent que finalement, une grande partie des questionnements qui les traversent ne sont pas exclusivement liés au don d'ovocytes.
Laure, vous nous avez dit, donc vous avez participé à des groupes au sein de l'association BAMF et puis maintenant vous êtes bénévole. Est-ce qu'il existe d'autres associations ?
Oui, alors déjà juste pour préciser chez BAMP
ce qu'on peut faire, bien sûr.
Il y a des antennes un petit peu partout en France et on fait des groupes de parole en présentiel ou en visio. Donc voilà, on peut très bien être dans une région de France et participer à une visio qui s'organise par les membres de Paris, il n'y a pas de souci. On a plutôt des gens qui sont en parcours et quand le bébé est là, en général, je pense qu'ils se tournent vers d'autres associations. Nous, c'est plutôt des gens qui se posent voilà, les questions qu'on a un peu soulevées pendant cette discussion, qui ont tous les questionnements de futurs parents. Il ne faut pas hésiter à se renseigner puisque je pense que, voilà, moi, pour l'avoir vécu en tant que participante aussi et en tant qu'animatrice de groupe de parole, c'est vraiment le fait de partager quelque chose avec, avec des gens qui comprennent vraiment, parce que des fois l'entourage ne comprend pas forcément ce qu'on est en train de vivre. Et là, on est avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui comprennent exactement les blessures qu'on a, et c'est très très fort. Donc voilà.
Et BAM, tous les ans aussi, organise une semaine de sensibilisation autour de l'infertilité.
Oui, alors cette année, ce sera au mois d'octobre. Je vous laisse regarder sur le site pour avoir les dates précises, je ne les ai plus en tête. Mais effectivement, avec des rencontres avec des psychologues, des gens des centres AMP, des groupes de parole aussi. Il y a des choses en présentiel aussi, on fait des projections de films par exemple. Voilà, tout est indiqué sur le site et c'est un moment de partage en tout cas entre les couples qui sont en difficulté.
Et donc oui, il existe d'autres associations. Alors pour en nommer quelques-unes, il y a Maya, les Cigognes de l'Espoir et puis l'association Maman Solo là, qui accompagne plutôt des femmes en parcours seules. Merci Marion. Comme vous nous l'avez bien dit, devenir parent grâce à un don d'ovocytes suscite de nombreuses questions, bouleverse les représentations que nous avons de ce que c'est qu'être une mère ou faire famille. Vous avez souligné l'importance du travail psychique inhérent au devenir parent et particulièrement mis en lumière par ce mode de conception. L'accompagnement permet d'éclairer ce qui est en jeu pour chacun et que ça ne vienne pas par la suite parasiter la parentalité et le lien avec l'enfant. Il est donc important de ne pas hésiter à consulter, à se faire accompagner si besoin. Ce mode de conception met également en lumière l'importance du processus d'adoption mutuelle dans toute parentalité. Le bébé a également un rôle important dans ces processus de filiation et d'affiliation. Serge Lebovici disait d'ailleurs « c'est le bébé qui fait la mère ». Laure, je recommande souvent des lectures à mes patients, des lectures, des vidéos, des podcasts. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lues, que vous auriez envie de partager et nous recommander ?
Alors, il y a deux choses. Il y a un très beau livre que j'ai lu qui s'appelle « Les âmes fécondes » de Marion de la Forest d'Yvonne, qui est déjà un très joli livre, plein de petites choses qui peuvent être ressources. Donc voilà, c'est un livre qui, dans mon parcours, m'a beaucoup marqué. Et il y a une pièce de théâtre qui se joue à Paris en ce moment qui s'appelle « La trajectoire des gamètes », qui va sans doute tournée dans toute la France après, qui a un seul en scène avec une jeune femme qui raconte son histoire. Donc elle a 36 ans et elle va donner ses ovocytes et on suit un peu son parcours, on revient un petit peu sur son enfance et c'est assez formidable. Donc je la recommande.
Merci Laure. Marion, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander ?
Alors peut-être sur le don d'ovocytes, un ouvrage qui s'intitule « Témoignage sur la conception par don » de Caroline Lorbach. C'est un ouvrage où il y a des témoignages de parents, d'enfants et d'honneurs qui a été traduit par l'association Maya. Et puis, des ouvrages à destination des enfants. Alors ça, c'est important aussi que chaque parent s'approprie des livres en fonction aussi de leur sensibilité. Donc, on a « Les mystères des graines à bébé » de Serge Tisseron, « Amstram graines » de Anne-Catherine Leroux, et « Comment on fait pour avoir des bébés » de Sophie Menegali.
En effet, ces livres pour enfants sont souvent des ressources importantes pour les parents, voilà, pour justement comment je dis, quels mots j'utilise, voilà, de pouvoir un peu construire les choses et puis se sécuriser. Et puis, bien évidemment, moi je vais recommander votre livre, Marion, « Devenir parent grâce à un don d'ovocytes » aux éditions RS. Un très grand merci, Laure, d'être venue partager avec nous votre histoire un peu extraordinaire. Peut-être quand même qu'on va préciser que toutes les femmes qui donnent ne se retrouvent pas par la suite voilà, potentiellement confrontées à une situation d'infertilité. Mais voilà, merci d'avoir partagé avec nous tous vos questionnements et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Laure. Merci beaucoup Marion Cano. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et maître de conférence en psychologie clinique, psychopathologie psychanalytique de la périnatalité et de la première enfance à l'université Paris City.
Merci Mathilde pour votre invitation.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Hold up. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.